Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans le journal des auditeurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est vendredi, vous connaissez le principe, le vendredi c'est la libre antenne, c'est vous qui choisissez les sujets sur lesquels vous souhaitez vous exprimer, c'est vous qui faites le sommaire. Nous reviendrons avec Ozana sur la situation au Soudan, nous parlerons du G5 Sahel, mais aussi de la polémique autour de l'écrivaine Christine Angot-Haussé en France. Pour participer, nous parler du sujet de votre choix, appelez-nous dès maintenant 33 1 55 07 58 00. Tout d'abord, je vous propose d'écouter quelques messages que vous nous avez laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Bonsoir, voilà. Je lance un message aux Africains, parce que je ne sais pas. Les Africains, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, mais ils savent quelles sont les personnes qui souffrent. Parce qu'aujourd'hui, on parle de mandat de 2 ans pour un président africain, parce que je viens de suivre le débat de chez Alpha Condé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'Alpha Condé a fait pour ça, mais je sais au moins, moi qui viens de la Côte d'Ivoire, ce que mon président actuel fait et ce que le défunt président Tshisekedi a fait. Et je pose la question pour savoir, avec la situation africaine aujourd'hui, les Africains qui souffrent, qui ont faim, est-ce qu'un président qui vient dans un pays africain, qui travaille sérieusement, qui fait beaucoup pour son pays, peut en 2 mandats faire quelque chose de bien pour son pays? C'est la question que je pose. C'est ce quoi je vous dis merci.
Bonjour Africa Radio, Brice à l'appareil. Je réagis juste à l'émission qui vient de passer sur la tentative de changement de constitution par M. Condé qui... bien entendu, laisse penser qu'il voudrait se représenter encore, comme c'est devenu le sport continental en Afrique. Maintenant, c'est devenu ça, de se représenter pour le 3e mandat en prépatriant. Donc juste, je me demandais pourquoi le grand G5 des pays les plus puissants, ne peuvent pas prendre l'initiative de, par une recommandation, bien entendu, bien appuyée, presque imposée à tout État, de devoir mettre dans leur constitution noir sur blanc qu'une personne ne puisse faire que 2 mandats successifs. Les plus grandes puissances le font, pourquoi ne peuvent-ils pas l'imposer à tous les autres États sous peine de ne pas pouvoir faire partie de pas mal d'avantages internationaux, la CPI, le FMI et beaucoup de choses. Allez, salut à tous.
Oui, bonjour madame, je me nomme Kwame. Je voulais intervenir à propos de la Guinée, ce qui se passe en Guinée. C'est dommage pour l'Afrique. Soit disant, les intellectuels, quand ils viennent au pouvoir, ils ne veulent plus quitter. C'est dommage. Monsieur Alpha Condé a fait 2 mandats. Il est intellectuel. Ces 2 mandats, il a fait, il va faire ses 10 ans. Il n'est pas le seul intelligent en Guinée. Moi, je suis allé en Guinée, je suis fort étonné de voir que le courant passe dans chaque quartier une heure. C'est dommage. Quand le courant vient, on est obligé de courir, aller brancher le fer, repasser ses amis vite. Et une heure après, ça part dans l'autre quartier. Moi, quand je viens en Guinée, je suis à 16 centres, non loin de l'hôpital. Mais c'est dommage. Comment un grand pays si riche peut être traîné dans la boue comme ça? Le président Sékou Touré a bloqué la richesse de la Guinée. Il ne voulait pas que les Blancs viennent voler. Et vous qui êtes venus après, travaillez pour le peuple guinéen. Voilà.
Bonsoir, voilà, j'interviens. Donc voilà, j'interviens par rapport à mes frères africains. Souvent, il y a des sujets dont ils n'ont pas connaissance ou information. Et quand on aborde le sujet, automatiquement, ils appellent et rentrent dans le sujet sans connaître vraiment les raisons, les informations. Et je dis, on n'est pas obligé d'intervenir. Plutôt chercher à savoir, à comprendre. Voilà, c'est aussi important. Il ne faut pas, quand il y a un sujet appelé directement, intervenir, dit des choses qu'on n'a pas des informations on ne connaît rien. Et voilà quoi. Donc c'était mon coup de gueule. Merci.
Ma très chère Atman, bonjour. Monsieur Blaise Boudé vient de reconnaître que les résultats qui ont été prononcés par la CIE lors de l'élection de 2010 sont les vrais résultats. Moi, je salue M. Charles Blaise Boudé. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Charles Blaise Boudé, c'est quand il dit qu'il a une offre pour les Ivoiriens. Non, M. Charles Blaise Boudé, c'est vrai. Nous, les Ivoiriens, nous, les jeunes, nous aspirons à une nouvelle génération. Mais toi, Charles Blaise Boudé et M. Soro Guillaume, vous n'incarnez pas cette nouvelle génération. Parce que nous, Ivoiriens, nous voulons une nouvelle génération qui n'ont pas les mains tachées de sang. Nous voulons une nouvelle génération qui n'ont pas de propos xénophobes, qui ne cite pas à la haine. M. Charles Blaise Boudé, vous n'êtes pas la personne dont rêvent les Ivoiriens concernant cette nouvelle génération. Idriss, bonne journée.
Oui, bonjour chers habitants de Radio Africa. Oui, ce matin, je m'insurge contre certaines formes de pratiques en Côte d'Ivoire. Les élèves passent le temps, toute une journée entière, ou même si deux jours, à passer le CEP, le certificat d'études primaires. Mais à ce siècle actuel, nous avons passé ce cap, nous avons passé cette étape. Comment encore en Côte d'Ivoire, on peut passer une journée entière à passer un CEP, alors que dans les autres pays, ce diplôme reste aléatoire, reste facultatif. Je ne peux pas comprendre qu'au lieu de permettre aux enfants d'aller à l'école comme il faut, les permettre de pousser loin leurs études ou de faire des notations, des appréciations continues, non, on les fait passer le CEP. Le CEP, avec l'éducation physique y compris, ça fait une journée, ou plutôt deux jours perdus. Deux jours qui ne servent à rien. Ce CEP n'est pas un diplôme auquel ils peuvent s'appuyer dessus pour dire, ben voilà, comme j'ai mon CEP, je peux travailler avec. Le CEP n'est pas un diplôme qu'on peut dire, ben c'est grâce au CEP que je vais rentrer en sixième et autres. Donc je pense que le temps a révolu et qu'il ne sert vraiment à rien. Merci.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. Un salut particulier à nos auditeurs qui nous écoutent sur le canal 421 de CanalSat sur le continent africain. Appelez-nous pour participer au JDA 33 1 55 07 58 00. Aujourd'hui, vendredi, c'est la libre antenne. On commence tout de suite cette libre antenne avec Hosanna. Bonjour Hosanna.
Bonjour Stéphanie et bonjour à vos millions d'auditeurs du JDA.
Alors, vous vouliez revenir, hein, Hosanna, sur l'actualité au Soudan. L'Union africaine a suspendu jeudi le pays après la répression sanglante. L'Union africaine, dans un communiqué, a indiqué que le Soudan serait suspendu jusqu'à la création d'une autorité civile de transition. Alors, qu'en pensez-vous? Quel regard portez-vous sur cette situation?
Oui, j'aimerais revenir un peu sur la situation très inquiétante du Soudan, avec la violente répression barbare des manifestations par les forces terroristes de Omar el-Béchir. Et c'est une humaine de tuer des personnes innocentes qui revendiquent juste le droit et la liberté. Je suis vraiment satisfait de la réaction un peu tardive de l'Union africaine qui a retiré le Soudan dans son organisation. Mais je crois que cela n'est pas suffisant. Il faut que l'Union africaine fonce encore avec des sanctions ciblées, surtout à l'encontre des chefs militaires qui veulent confisquer le pouvoir par les armes après la chute de Omar el-Béchir. L'agent militaire doit céder le pouvoir aux civils et pour ça j'interpelle la fameuse communauté internationale d'emboîter les pas de l'Union africaine en imposant aussi ces sanctions. Et les autorités soudanaises font aujourd'hui la honte de l'Afrique. Et pour cela, j'en appelle à la population soudanaise de ne pas laisser échapper les révolutions, de ne pas aussi se laisser confisquer leur révolution. On ne peut pas négocier aujourd'hui avec des barbares, des criminels. La place des militaires, c'est dans les casernes et non en politique. Donc, qui laisse tout simplement la politique aux politiciens. Semer la terreur ou semer la confusion au sein de la population soudanaise. Je pense que cela est inadmissible, quoi, à mon avis.
Merci Ozana pour ce commentaire sur le Soudan. En effet, une négociation entre la contestation et le conseil militaire, hein, ont a chopé le 20 mai, chaque parti souhaitant prendre la tête de la transition prévue sur 3 ans. Et il faut savoir qu'au moins 108 personnes ont été tuées et plus de 500 ont été blessées en 3 jours lors de la dispersion brutale du sit-in devant le siège de l'armée. C'était en début de semaine dans la capitale soudanaise, Khartoum. Merci Ozana. On va parler dans quelques instants de la Coupe du Monde de football avec Amadou et Baba, Coupe du Monde féminine bien sûr. Avant cela, retour sur une polémique française, les propos de l'écrivaine Christine Angot dans une émission samedi soir. L'écrivaine a comparé la traite négrière avec la Shoah en disant que, à l'occasion lors de la Shoah, il y avait une véritable volonté d'extermination, contrairement. Alors, je demande à Roland de couper sa radio s'il veut s'exprimer, contrairement à la traite négrière, où a-t-elle dit on gardait les esclaves en bonne santé. Roland, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie.
Bonjour Roland. Vous vouliez revenir sur cette actualité française qui vous a choqué et plutôt dire que finalement ce n'était pas un dérapage, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça. Si vous voulez, choquer n'est pas le mot, parce qu'à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. On sait très bien qu'il y a beaucoup de personnes comme elle qui pensent comme ça. Je ne suis pas étonné, parce que pour moi, il n'y avait pas de lien entre l'invité qui est venu parler de son livre de la Shoah et l'exemple qu'elle a pris. Voilà, il n'y avait pas de lien pour arriver à dire que ce qui est arrivé aux Africains n'était pas, il n'y avait pas, c'était pas comparable. Ce qui veut dire que c'est un sujet dont déjà elle avait déjà pensé, elle avait déjà minimisé, et c'était pour elle. Il y a eu une occasion d'en parler, elle l'a saisi. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que au-delà du fait que les gens se sont plaints, les personnes se sont plaints au niveau du CSA, il faut aller plus loin que ça, parce que il n'y a rien de plus grave que de mépriser quelqu'un, de mépriser autrui. On sait que les coups font mal, mais les mots font encore plus mal que les coups. Et le fait de mépriser quelque chose, c'est encore plus grave. Donc, on doit vraiment aller plus loin que le fait qu'elle reconnaisse qu'elle a fauté, qu'elle a dérapé. Il faut qu'elle soit punie, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Voilà. Et je voudrais demander aux personnes qui ont la notoriété, on va dire les Africains ou autres, qui ont une notoriété dans ce pays ou ailleurs, de se manifester aussi. Parce que je peux me tromper, mais j'ai pas cru en comprendre qu'il y a beaucoup qui sont plaints de ce qu'elle a fait. Si je me trompe, vous me le dites. Voilà. Allô?
Oui, oui, on vous écoute, voilà. J'étais en train de chercher, je ne crois pas qu'il y ait une personnalité qui ait pris position, il faudrait regarder voilà. Peut-être.
Il faut qu'ils prennent position, parce que c'est ça aussi qui va faire entendre notre voix, parce que personne d'autre ne va le faire pour nous. C'est vrai, on se plaint au niveau du CSA, mais une personne qui vous fait mal, après qui dit « donc je m'excuse », quand elle le fait sciemment, elle sait très bien que derrière, il n'y aura rien, il n'y aura pas de suite. Or, si les personnes qui ont la notoriété africaine se plaignent, leur voix va se faire entendre, ce qui fait que nous, derrière, quand on se plaint, ça a une portée. Voilà. C'est ce que je voulais signaler, que vraiment, il faut qu'ils le fassent. Parce que leur autorité doit servir aussi à démontrer que on ne peut pas dire tout et n'importe quoi, surtout sur une chaîne comme France 2 qui a une heure d'écoute, qui est écoutée par tout le monde. Parce que ce sont nos enfants derrière qui vont subir cela. Quand on va leur dire à l'école que l'esclavage, ça a été bien pour vous, qu'est-ce qu'ils vont répondre si nous, on ne dit rien? Voilà.
Merci Roland, merci Roland de votre intervention. Roland, qui finalement dit, est en train de dire que c'était l'écrivaine elle-même qui avait amorcé cette concurrence mémorielle. Merci Roland de votre intervention. On va parler, je le disais, dans quelques instants de la Coupe du Monde de football féminine. Avant cela, Monsieur Diarra voudrait parler de la réinstallation du G5 au Sahel. L'installation, le G5 Sahel était-il parti? Bonjour Monsieur Diarra.
Bonjour Madame Ackman. Bonjour Africa Radio. Vous allez bien Madame?
Bonjour Monsieur Diarra. On vous écoute alors. Qu'est-ce que le G5 Sahel fortement critiqué actuellement? Ils sont nombreux à s'interroger sur son efficacité.
Oui, c'était installé, 5 Sahel était installé à Sévaré, mais là maintenant ils veulent revenir.
À Bamako, c'est ça?
Oui, c'est exact. Madame, les réinstallations des Kidjés, des G5 Sahel à Bamako est tout simplement synonyme de tenons vides, oui, de coquilles vides. Venir avec les armes lourdes et des bagages militaires, mais également des bruits de bottes parmi les populations, sera tout simplement une bombe à retardement. Donc, par conséquent, nous nous disons, madame, nous ne voulons pas une bombe à retardement dans notre pays.
Bon. Bah pourtant, Sévaré, c'est au Mali aussi, monsieur Diarra.
Madame Sévaré est au Mali. Oui, oui.
Donc, le QG de la Forge est 5. D'accord.
Oui, il était censé venir aller combattre soi-disant terroristes. Mais là, maintenant, à Bamako, je ne vois pas pourquoi venir s'installer à Bamako. Ils ont peur ou ils veulent venir regarder les étoiles à Bamako?
C'est très clair, monsieur Diarra, qui pense que le G5 Israël, le QG hein, du G5 Israël serait plus utile, si j'ai bien compris, dans le nord du Mali qu'à Bamako. Merci, monsieur Diarra. On entame cette... On continue plutôt, cette libre antenne en parlant de la Coupe du Monde féminine de football. Ça s'ouvre ce soir en France avec un premier match. Les Bleus vont affronter je ne sais plus qui. Bonjour Amadou.
Bonjour Stéphanie, bonjour Africa Radio et les auditeurs de Radio Africaine, BBC. J'interviens sur un peu le football. Effectivement, le football, c'est un sport.
France-Corée du Sud.
Oui, donc ils ont parlé de l'équipe nigérienne. Effectivement, les équipes africaines, ils sont bien, mais c'est qu'il y a la fédération africaine devant la FIFA, est-ce qu'on parle, il y a une sorte de complexe, parce que quand tu regardes bien, je ne peux pas dire qu'on a gagné de l'avance. La Coupe du Monde n'a jamais été en Afrique, continent africain. Donc nous,
si, Amadou, la Coupe du Monde était en 2010 en Afrique du Sud.
Oui, en Afrique du Sud, mais juillet, mais la Coupe. Est-ce que les Africains...
Ah, il n'y a aucune équipe africaine qui a remporté la Coupe du Monde, c'est ce que vous dites.
La Coupe du Monde, quelle est la Coupe du Monde? Effectivement, on a vu même le Sénégal, le Cameroun, tout cela. Bon, l'équipe féminine aussi. Mais moi, j'aimerais bien voir, parce que tous les bons joueurs qui sont aujourd'hui en Europe, toutes les équipes, ils sont venus de l'Afrique, ou bien je peux dire l'Europe-Africa, ou bien France-Africa. L'équipe féminine de la France, quand tu enlèves les joueuses qui sont d'origine africaine, qui sont France-Africa, ben, il n'y a rien qui reste. Donc, sur ce côté-là, la fédération africaine devait se donner des moyens pour entretenir la fierté africaine, je comprends, au lieu de nous s'entretuer entre nous, au lieu de nous minimiser. On a déjà souffert avec l'esclavagisme, mais ça suffit, mais prenez votre destin à la main. Mais
ouais, que l'Afrique fasse sa propre coupe, c'est ça, si j'ai bien compris, Amadou, hein, qui dit finalement... Le continent est défavorisé. Pourquoi il n'y a aucune équipe africaine qui a remporté la Coupe du Monde? Merci beaucoup, Amadou. On va demander à Baba ce qu'il en pense. Bonjour, Baba.
Bonjour. Bonjour, Stéphane.
Ça va, Baba?
Ça va et vous?
Ça va bien, Baba. Alors, vous avez entendu Amadou hein, qui dit l'Afrique est défavorisée.
Oui, Stéphanie, moi, je vous dis une chose. Comme aujourd'hui, je vais parler avec vous, ça, c'est une question de ma passion, et vous savez que je suis bien tout foot avec Africa numéro 1.
Je sais bien que vous êtes un auditeur régulier de tout feu, tout foot tous les lundis soirs à partir de 20h, heure de Paris.
Voilà, et Stéphanie, le problème de l'Afrique, c'est la corruption. Et j'ai entendu votre invité avant, je crois dans votre émission ou dans le journal, il disait que l'Afrique, il n'a pas de moyens par rapport aux autres continents.
C'était la journaliste Cynthia Zetia au micro de Saladin Diakou qui s'exprimait tout à l'heure.
Ça, c'est absolument faux, Stéphanie. Le problème d'Afrique, c'est la corruption. C'est la corruption. Vous verrez au Mali, il y avait 4 ans aujourd'hui, les championnats, ça ne marche pas. Vous savez, c'est à cause de quoi? Parce que c'est une minorité qui sont... comment ils sont entretenus à la tête de la fédération malienne, ça qu'est, ils veulent toujours rester parce que c'est des gens corrompus. Le problème d'Afrique, ça ne concerne pas seulement le Mali, ça concerne tout.
On a vu dans d'autres pays, je crois aussi que le Bénin a eu beaucoup a été suspendu à plusieurs reprises pour avoir aligné des.
Voilà, Stéphane, le mal de l'Afrique, il faut qu'on combatte pour que la corruption s'arrête. Sinon, on a tous les talents du monde.
Eh bien, justement, avec Baba, avec Ahmad, est-ce qu'il y a eu du ménage qui a été fait à la CAF, le pauvre qui a été interpellé hier, mais qui est ressorti libre?
Mais là, c'est normal. S'il y a des choses, il faut enquêter jusqu'au bout, madame. Même s'il y a un dirigeant africain qui va arrêter quelque part en Europe ou en Amérique, moi, je suis réjoui, vraiment. Parce que c'est des gens-là qui sont corrompus. C'est des gens qui ne veulent pas travailler de l'Afrique. Voilà. Et ça, c'est un problème où il faut vraiment combattre jusqu'à fond. Et avant que je vous laisse, j'ai encouragé le jeu du Mali, je crois, aujourd'hui.
Oui.
Et ils vont se révéler sur l'équipe de l'Italie. Et nous, tous les Maliens, tous les Africains, on a cœur avec eux. Et vraiment, ces jeunes-là.
Les Aiglons, champions d'Afrique des moins de 20 ans et qui compétissent actuellement, effectivement, pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Ce mois de juin, vont être riches en football, que ce soit du football féminin ou masculin. Si vous voulez nous parler de la Coupe du Monde ou de toute autre chose, appelez-nous. Il nous reste encore un peu de temps. 33-1-55-07-58-00. 33-1-55-07-58-00. Sur Facebook, à Christian qui voulait revenir sur l'épidémie d'Ebola qui frappe la RDC. Il dit quand l'Afrique de l'Ouest est sous la menace de cette épidémie, elle avait reçu des médecins qui sont venus de différents pays pour freiner cette avancée. Pourquoi la RDC est-elle abandonnée ? Oh, pas tout à fait abandonnée, je pense qu'il y a MSF qui est plutôt déployé localement, mais effectivement, il y a pas mal de difficultés pour venir à bout d'Ebola en RDC. Et puis Tierno qui nous disait ceci sur la Guinée. Hein. En Guinée, les juristes prennent d'assaut les médias pour démontrer que le projet d'une nouvelle constitution n'a pas de base juridique. C'est une violation grave de notre loi fondamentale. Au même moment, les partisans du Parti Socialiste au pouvoir, le RPG arc-en-ciel, qui n'a de socialiste que le nom, sont déjà en campagne pour un troisième mandat d'Alpha Condé. Puis le Front National de Défense de la Constitution a publié, nous dit Tierno, récemment, une liste de 20 personnes qui seront responsables de tout ce qui arrivera à la Guinée et à la sous-région. 33-1-55-07-58-00, c'est le numéro pour participer. On va écouter Brice qui voulait revenir sur le G5 Sahel. Bonjour Brice.
Bonjour Madame Hartmann, bonjour à tous les auditeurs. Alors je vais essayer d'être concis, en fait... concernant le G5 Sahel, je rappellerai à tous ceux qui mettent leurs espoirs en cette organisation-là que c'est effectivement un consortium de pays africains, mais qui est sous l'égide de puissances étrangères. Je pense que
Brice, on va être simple. C'est la France qui a poussé à la création du G5 Sahel.
Voilà. Il y a un fédérateur extérieur à l'Afrique qui gère ce consortium de pays soi-disant africains.
Tout à fait ça. La France est à l'initiative. Elle essaye, puisque pendant longtemps, ces pays, et ces présidents d'ailleurs, ont du mal à s'entendre. Ils font plus confiance à la France apparemment qu'à leurs voisins. Et donc, pendant longtemps, la France est à l'initiative. Et après, gérer, c'est peut-être pas le mot juste, mon cher Brice.
On va dire que le calendrier sera fixé par la France. Alors, ce que nous, au Mali, nous craignons pour notre pays, c'est ce fameux projet de fission. Et beaucoup croient en ce projet. Moi, je pense que ce projet-là est à l'étude depuis très longtemps, bien avant le coup d'État de Sanogo. Et le rapatriement du G5 ou du moins de ses bruits de bottes en pleine capitale, pour moi, c'est pour amorcer l'explosion du pays qui pourrait démarrer de Bamako lorsque la fission sera effective, parce que le projet est là et le projet sera tenu, parce que ce fameux fédérateur, quand il a quelque chose en tête, il va jusqu'au bout, quels qu'en soient les moyens. Et moi, j'ai peur d'une chose, c'est que le projet de la fission de ce pays-là se mettre en acte, et pour pouvoir mieux contenir la population, on amène les troupes au plus près de la population, là où...
C'est beaucoup d'extrapolation, mon cher Brice, principe des troupes, c'est surtout un quartier général, vous savez, c'est pas une base militaire, il y a une nuance entre un centre de décision et on ramène pas des troupes à Bamako, c'est pas exactement ça.
Bon, en tout cas, moi, j'ai peur de ce projet de fission-là.
La création de l'État de l'Azawad, c'est bien ça, maman.
Voilà. Qui arrivera un jour de toute façon. Et on cherche par tous les moyens de savoir comment gérer la crise après. Et je ne sais pas si ça en fait partie de ce projet-là. Ça y ressemble en tout cas.
Merci, voilà. Brice.
Merci à vous.
Bonne journée à vous, Brice. Alors justement, merci beaucoup, Brice. On va écouter Madi aussi, qui voit d'un mauvais œil ce G5 Sahel, ce déplacement du QG du G5 Sahel de Sévaré vers Bamako. Madi Diarra, bonjour.
Oui, bonjour, c'est Éditeur Africa numéro 1.
Oui, on a changé de nom depuis, Madi, on s'appelle Africa Radio, mais c'est pareil.
Ouais, bon bah c'est bien. Par contre, j'ai intervenu sur les installations de G5 Sahel à Bamako. Franchement, je suis contre, parce que c'est 5 Sahel de ça, même les camps militaires dans les capitales, je suis contre de ça, surtout plus de ces 5 Sahel dans les capitales, c'est très dangereux, parce qu'il y a du monde en plus, avec des attaquements qui viennent comme ça en surplus, dans les capitales, c'est dangereux, quoi, c'est très très dangereux.
Moi, merci. Madi, hein, de nous avoir appelé. Hein, Madi également, hein, qui voit hein, cette installation du QG du G5 Sahel plutôt dangereux. Et puis, il y a eu des manifestations hein, fin mai à l'initiative de plusieurs associations de la société civile. Hein, il y a eu des manifestations de protestation hein, contre l'installation du QG hein, de cette force. Conjointe pour la population locale, le siège de la force militaire doit se retrouver sur le champ de bataille où il a été ramené à la suite d'une attaque terroriste hein, qui a saccagé l'ancien siège de Sévaré. On retourne sur la Coupe du Monde féminine de football avec Vali. Bonjour Vali.
Bonjour.
Merci
de vous allez bien ?
Ça va très bien et vous-même Vali ?
Non mais il n'y a pas de souci.
Ah bah, tant mieux, il n'y a pas de souci, tant mieux. Vous vouliez parler, encourager nos équipes féminines, c'est bien ça, hein ?
Par exemple,
ah oui.
Déjà, il faut les encourager parce que ce n'est pas une Coupe du Monde tellement médiatisée, mais bon, je pense que là, on est déjà dans un début de médiatisation plus important.
Il y a de la pub, on en parle. Vous allez regarder le match, vous, ce soir ? D'ouverture ?
Je vais essayer. Je vais essayer de regarder.
D'accord. Et le Nigeria joue demain soir aussi.
Entre autres, oui. Il faudrait regarder. Il faut regarder tous les matchs parce que vraiment, je pense qu'on est encore dans un football sain. On est encore dans un football sain où il y a pas beaucoup de faux semblants dans les jeux. Hein. On ne plonge pas dans les surfaces chez les filles. Donc ça, c'est...
On fait pas semblant de se faire mal à la cheville, c'est ce que vous voulez dire ?
Non, pas du tout. Donc c'est encore un football plaisant à voir, hein. Il n'y a peut-être pas la vitesse ou l'acuité comme chez les hommes, mais le football est encore limpide. Hein. Je pense qu'il faut regarder. Et je lance un appel pour encourager tous les Africains à soutenir les équipes africaines qui, je pense, cette fois-ci, ont une chance d'arriver très loin. Hein. Vraiment, avant, on avait des doutes, mais je pense que le Cameroun, qui s'est qualifié pour la première fois pour les huitièmes de finale en 2015, a ouvert la voie. Hein, pour que les équipes africaines puissent aller le plus loin possible. Je pense que cette fois-ci, elles ont tout ce qu'il faut, comme les autres équipes du monde entier hein, qui sont venues, pour aller le plus loin possible. Hein. Je pense que...
Et là, il y a trois équipes africaines, Vali. Hein, Nigeria, Afrique du Sud et Cameroun. Hein, comme vous,
oui, qui jouent très bien et qui, je pense, ont toute leur chance. Donc, c'est le temps de mobiliser aussi les gens pour qu'ils puissent aller les soutenir très fortement. Et pour qu'elle puisse faire le meilleur. Hein. Je pense que beaucoup, une des équipes va arriver très loin. Ça,
eh ben, on suivra hein, sur Africa Radio, bien sûr. Hein, c'est l'évolution des équipes africaines lors de cette Coupe du Monde féminine de football. Merci Vali. Nous reste beaucoup moins d'une minute. On va rapidement écouter Serge qui voudrait faire un petit coup de gueule sur le 75e anniversaire du débarquement. Bonjour Serge.
Oui, bonjour Madame Arman.
Alors allez-y, vite fait, on a 30 secondes. Oui, hein. Vous dites, on n'a pas du tout rendu hommage aux Africains. Hein.
Mais c'est pas seulement qu'on n'a pas rendu hommage aux Africains, mais c'est qu'on a oublié, en fait, par rapport au 75e anniversaire du débarquement, qui a été fêté hier, où il y a eu un souvenir, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas parlé ni des Africains, ni des Russes, et on sait très bien que les Russes ont eu un lourd bilan, c'est-à-dire c'est ceux qui ont justement fait pencher la balance pour vaincre le nazisme. Et j'ai trouvé ça très, très choquant. Et je voulais juste rappeler aux Africains, surtout moi qui suis d'origine camerounaise, aujourd'hui, on parle des francophones et des anglophones. Je suis en train de dire, vraiment, on n'a rien compris. On n'a rien compris. Nous, on se bat pour des trucs qui viennent de loin, alors que en fait, nous sommes tous, faisons tous un seul peuple. Et quand je vois ça, mais vraiment, j'étais devant mon écran télé et j'étais choqué, d'autant plus j'ai perdu un arrière-grand-père qui n'est jamais revenu du Cameroun, qui était parti combattre.
Qui est ailleurs.
Voilà, et vraiment, je voulais dire aux Africains.
On lui rend hommage aujourd'hui, mon Serge, et merci hein, pour votre appel et pour ce rappel nécessaire. C'est la fin de cette émission. Hein. Merci à tous de votre
votre participation. N'hésitez pas à continuer le débat sur les réseaux sociaux ou sur le répondeur d'Africa Radio 33 1 55 07 58 05. Nous diffuserons vos messages lundi. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute d'Africa Radio, la seule radio africaine. À lundi.